On doit demander aujourd'hui à saint Thomas de nous donner l'amour qu'il avait pour l'Eucharistie. Il y a une petite question, puis après nous continuerons. Qu'est-ce qui permet de dire que quelque chose est une dimension de la personne? Par exemple, pourquoi le milieu de vie n'est-il pas une dimension de la personne? Parce que c'est le milieu de vie. Je ne fais pas mon milieu de vie comme je veux. Vous êtes entré au couvent, on vous a donné une chambre, un lieu où vous reposez, on vous donne une place. Votre voisin, ça fait partie de votre milieu de vie, c'est sûr. Votre travail, ça fait partie de votre milieu de vie, mais la personne, c'est vous. Hein? Il n'y aurait pas de milieu de vie si vous ne cherchez pas les personnes. Votre milieu de vie, il s'impose à vous et vous le faites. On fait son milieu de vie. On est comme ces animaux qui portent comme la tortue. La tortue, quel est son milieu de vie, la tortue? Et quel milieu de vie d'un petit poussin? Quel est le milieu de vie? Il y a un milieu de vie pour un poussin, mais non, pas de personne. C'est embêtant. Donc le milieu de vie n'est pas la personne. La personne, je la forge. Elle est mienne. Mon milieu de vie, il s'impose à moi. Je le modifie un peu, mais pas trop. Je l'accepte. J'accepte mon voisin. Ça fait partie de mon milieu de vie. Et mon voisin est assommant. Ça fait partie de mon milieu de vie. Parce que ça m'exerce à la patience et à la charité. Ça fait partie de mon milieu de vie. Mon milieu de vie, il change. Ma personne, je la porte avec moi. Alors, il y a des personnes qui sont comme pour la tortue. Et la tortue n'est pas une personne. Mais on peut dire, il y a une analogie de similitude. Alors, par exemple, pourquoi le milieu de vie n'est-il pas une dimension de la personne? Tout simplement parce que c'est le milieu de vie. C'est pas moi. Je ne suis pas mon milieu de vie. Mon milieu de vie, c'est les autres. Jusqu'au coq. C'est les autres. Le milieu de vie, le coq qui a chanté pour Pierre et a fait partie de son milieu de vie. Et d'une façon très spéciale. Toute personne grandit dans un milieu qui le conditionne dans sa croissance. Oui, c'est pas le milieu de vie. Le milieu de vie le conditionne, mais c'est lui qui est conditionné et c'est lui qui est personne et individu. C'est pas le milieu de vie. Le milieu de vie fait partie de ma manière de vivre, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que la personne, qu'est-ce qui permet de dire que quelque chose est une dimension de la personne? Réfléchissez chacun d'entre vous, vous êtes une personne. Qu'est-ce qui fait que vous êtes une personne ? Vous êtes une personne. Alors évidemment, vous pouvez très bien ne pas y réfléchir. Mais le propre du philosophe, c'est de réfléchir sur ses expériences humaines. Je suis une personne. Du moins, j'espère. Je deviens une personne. Je suis un individu qui devient une personne. Au bout d'un an de noviciat, je suis changé. Ma personne n'est plus tout à fait la même. Et si au bout de 2 ans, je peux arriver à faire des vœux, c'est que ma personne a grandi. L'individu est le même. Hein. Il a changé un petit peu, mais il a perdu un peu de poids. Normalement, au bout de 2 ans de noviciat, on perd un peu de poids. Mais perdre un peu de poids, ça ne touche pas la personne. La manière dont on vit de perdre son poids, ah ça c'est personnel. Il faut arriver à réfléchir sur ce que vous êtes. Parce que vous avez l'expérience de la personne en vous. Ne la cherchez pas chez le voisin. Cherchez-la en vous d'abord. C'est la philosophie, c'est quelque chose que nous devons découvrir en faisant cet effort de penser. Penser à soi. Très agréable. Penser à soi. Mais penser à soi, c'est très exigeant. Parce que je vois que je dois devenir une personne. Alors, qu'est-ce qui me permet de devenir une personne ? C'est ça que j'appelle les dimensions de la personne. Et mon corps fait partie de ma personne, mon individu, l'individu que je suis. Alors, il peut très bien ne pas faire partie de ma personne. Il y a des gens qui grandissent de cette façon-là. Leur corps est étranger. Ah, c'est pas moi. Mais c'est désastreux. Parce que la première personne sur laquelle vous devez exercer votre autorité, c'est votre corps. Vous exercez votre autorité sur votre corps. Et c'est pour ça qu'il faut le prendre dans le bon sens. Parce que si vous avez un corps qui dépend de tous les atavismes, et que vous aviez un grand-père ou un arrière-grand-père qui avait un caractère de chien, mais qui était quelqu'un, le caractère de chien continue. Le quelqu'un ne continue pas toujours, mais le grain de chien continue. Alors on sait petit à petit qu'on a sale caractère. Avoir sale caractère, c'est de réagir trop rapidement, trop vite. On reçoit un coup de poing, tiens, je t'endors, immédiatement. Alors, avoir ça le caractère, c'est l'individu. Mais la personne assume son caractère. Vous assumez votre caractère. Il est avec vous, vous êtes bien obligé de l'assumer. Vous ne pouvez pas dire, c'est pas moi. C'est mon grand-père qui vit en moi. C'est vous. Vous l'assumez, vous le transformez. Donc, voyez, la personne, c'est quoi ? elle est dans l'usage. Je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, et je le redis. Alors, comprenez bien, c'est la personne n'est pas un principe, c'est une manière de vivre. On vit comme une personne humaine, ou on vit comme un animal, comme un individu. Quelqu'un qui vit sans faire aucune attention à ce qu'il est, au milieu dans lequel il est, il vit comme un individu. Il n'use pas de ses qualités, de ses défauts. Mon corps, ma personne s'en sert. Je me sers de mon corps. Et je me sers de mon corps d'une façon très, très particulière, parce qu'il n'est pas ma finalité. Il est un moyen qui colle à ma vie. Je ne peux pas le quitter. Donc, puisque je ne peux pas le quitter, soyons bien avec lui. Ne l'irritons pas. Ayons suffisamment d'intelligence pour comprendre les qualités, les défauts que nous avons. Et ces qualités, ces défauts s'enracinent très profondément dans notre corps. Voyez, soyons suffisamment intelligents pour dépasser notre corps. Notre finalité n'est pas dans notre corps. Et pourtant, le corps s'impose à nous comme étant tout le temps là présent. Je ne peux pas opérer sans mon corps. Donc, il est très présent dans ma formation, dans la formation de mon corps. Il est très présent. Et il est très présent pour les autres. C'est par leur corps que celui qui est à côté de moi est mon voisin. Et je le remercie d'être à côté de moi, agréable, un bon voisin. Il ne peut avoir été un voisin qui prend toutes les occasions pour m'ennuyer, pour me piquer. Oui. C'est, au fond, la philosophie doit arriver à vous rendre un peu transparent dans vos activités. Ne pas agir uniquement une action d'homme, d'individu, mais une action humaine. Toute action humaine est personnelle. La morale est personnelle. Elle n'est pas individuelle, elle est personnelle. Et c'est dans l'usage qu'on découvre nos qualités et nos défauts et nos limites. C'est dans nos activités que nous découvrons la pesanteur de notre corps. On découvre la pesanteur de son corps quand on fait des courses pour voir si on saute bien. Ça, oui, hein. Mais on découvre la pesanteur de son corps dans toutes les relations humaines, tout le temps. Un compagnon qui ne nous quitte pas. On ne peut pas le quitter. Vouloir le quitter, c'est faux. On ne peut pas le quitter. On peut le dépasser. Ah oui. On doit accepter que mon corps, ça fait partie de ma personne. Mes qualités, mes défauts, tout l'atavisme, il est dans mon corps. Ça fait partie de ma personne. C'est intégré. Vous voyez bien, le milieu de vie est extérieur et la personne est immanente. C'est moi. Tout ce qui est moi doit devenir personnel. Tout ce qui est moi individuel doit devenir personnel. Petit à petit, l'individu est complètement assumé par la personne. Vous voyez, arriver à distinguer ce que saint Thomas nous dit d'une façon très nette, des activités de l'homme, de la femme, et des activités humaines. Les activités de l'homme, c'est tout ce qui n'est pas entièrement assumé. Alors c'est de l'homme, oui, c'est de l'homme, mais c'est extrinsèque. C'est mon intervive. Si on était très très lumineux, on dirait, ah mais c'est mon grand-père, ça. Ça vient de mes aïeux, c'est très net. Mais ce n'est pas moi. Et perpétuellement, je fais la distinction de tout l'atavisme qui est lourd à porter, ou bien tout l'atavisme qui m'aide. Si j'ai un grand-père qui est un saint, ça m'aide. Ça me donne une figure, un exemple qui m'aide. Si j'ai un grand-père au contraire qui a été un brigand, ça fait que j'évite le brigand. Et je sens en moi des poussées qui sont dans ce sens-là. Mais l'atavisme n'explique pas tout, parce que le corps... C'est pas le corps qui fait que l'activité est humaine. Le corps fait que l'activité est de l'homme, parce que le corps est de moi. Au fond, arriver à discerner dans vos activités celles qui sont vraiment assumées et finalisé. Ça, c'est l'activité humaine. Celles qui ne sont pas entièrement assumées, qui sont mes vieilles habitudes, qui sont des choses que je sais que c'est comme ça, je réagis comme ça, qu'on accepte cet individu qui est assez curieux, il réagit comme ça. Alors on ne l'assume pas, on le constate. Il y a en moi un étranger quand ce n'est pas assumé par moi. Et mon corps peut être étranger à moi. Dans la mesure où, justement, je ne l'ai pas assumé, il m'est étranger. Alors, pas toujours commode à porter. Oui. La personne, donc, qu'est-ce qui permet de dire que quelque chose est une dimension de la personne? C'est la personne qui permet de dire. Si vous avez une personne très peu développée, alors très peu de vos activités sont personnelles. Très peu. Vous êtes un numéro. Vous allez à droite, vous allez à gauche. Vous constatez, c'est tout. Mais il n'y a rien de vous. Et rien qui est assumé. Oui. l'examen de conscience hein, fait qu'on devient une personne qui est capable de comprendre toutes les activités dont on est responsable. Être responsable de ses activités, c'est-à-dire faire que ses activités soient personnelles. Et la responsabilité, elle est très variable. Pour quelqu'un qui est très personnel, toutes ses activités sont assumées par lui. Pour quelqu'un qui est très peu personnel, ou l'animal en lui est encore très puissant. Et en dehors de sa volonté. Alors, c'est évident, ce n'est pas personnel. Une colère violente qui vous prend tout d'un coup et vous donnez des coups de poing à votre voisin. Quand ça s'est apaisé, je me dis, mais c'est idiot ce que j'ai fait. C'est pas moi, ça. L'activité n'a pas été personnelle. La passion, les passions me font faire des actes d'homme. De l'homme. C'est moi qui l'ai fait. Mais j'en suis pas responsable. C'est deux choses très différentes. Et c'est très important, ça. De voir dans nos activités, quand vous faites un examen de conscience de votre journée, quelles sont les activités où vous êtes responsable ? Quelles sont les activités où vous n'êtes pas responsable ? C'est arrivé comme ça. Et c'est la fameuse distinction que fait saint Thomas et qui est très importante entre l'individu et la personne. Toutes mes activités, au point de vue individuel, toutes celles que je réalise, c'est l'individu. Mais elles ne sont pas assumées, elles ne sont pas humaines, elles sont de l'homme. Alors, nous revenons. C'est justement cette dernière dimension de la personne humaine. C'est le corps. Prétendre découvrir la personne humaine sans voir le corps, c'est faux. Ce serait justement se forger à soi une personne fausse. Le réalisme doit aller jusqu'au corps. Le réalisme de la personne humaine, c'est assumer son corps. C'est évidemment, c'est beaucoup moins noble que l'intelligence et la sagesse. Ce qu'il y a de plus noble dans la personne humaine, c'est l'intelligence et l'amour. Tout à fait d'accord. Ça, c'est la personne dans ce qu'il y a de plus profond. Mais la personne humaine, c'est que mon corps doit être pour moi quelque chose qui n'est pas uniquement quelque chose qui me limite, qui m'empêche d'être partout, qui se ramène à l'individu. Non, je l'assume. Il est mon instrument. Ah, le corps est mon instrument conjoint. Et instrument conjoint substantiel. Cette situation très curieuse du corps. Le corps est quelque chose qui vient s'ajouter au reste et quelque chose qui est essentiel. Mais ça s'ajoute. Comparativement à mon intelligence et mon amour, le corps est accidentel. Je peux être très gros et penser avec beaucoup de finesse. Tiens. Je peux être très maigre et penser avec beaucoup de grossièreté. Mon corps me conditionne mais ne me détermine pas. Le jour où le corps me détermine, je suis un pauvre type. Tout se ramène à l'individu. Alors l'individu est gros ou maigre, l'individu, on ne pense qu'à ça. L'individu pèse tant, on ne pense qu'à ça. Alors que le corps est substantiellement uni à l'âme, union substantielle, essentielle. Mon corps est essentiel à ma personne. La personne ne peut pas rejeter mon corps. Union substantielle. Mais il n'est pas premier. Il est toujours second. Toujours. C'est ce qui explique les révoltes quelquefois de mon corps. Il en a par-dessus la tête d'être toujours second. Il voudrait quand même être premier. Des activités corporelles qui peuvent devenir essentielles. Et quand, du point de vue de la gymnastique, par exemple, est devenue notre finalité. La finalité, c'est d'avoir un corps souple. Un corps qui peut faire tout ce que je lui demande. Mais mon corps n'est jamais ma finalité. Il ne peut pas être ma finalité. Pourquoi ? Parce que il ne me donne pas le bonheur. Mon corps peut se porter bien et que je sois dans la tristesse. Je ne sois pas épanoui. Mon corps est épanoui, il se porte très bien. Et la situation du corps est très spéciale. Elle est tout à fait propre à l'homme. D'avoir quelque chose de commun avec les animaux. Le genre commun avec les animaux. Et en même temps, ne pas être un animal supérieur. Il y a quelque chose en plus. Et ceux qui ne voient que le développement du corps, sans voir la dimension spirituelle qui est dans l'homme, chez eux, il n'y a plus de personne. Le développement de la personne ne se fait plus, il n'y a plus qu'un individu. L'individu, c'est dans son corps. Il est limité à son corps. Et le corps me donne les dimensions de l'individu. Avoir justement l'intelligence de mon corps et l'amour de mon corps, c'est considérer mon corps comme un élément essentiel à ma vie. Cet élément essentiel à ma vie, c'est justement ce que je dois assumer et dépasser. Pour être homme, une personne, la personne, c'est assister à ce dépassement constant du corps, de la passion. Un être purement passionné, qui est vraiment saisi par la passion, ce qu'il fait n'est plus personnel, c'est passionnel. Ça relève de son corps, de ses instincts. Ce n'est plus lui. Vous voyez, c'est au fond très important de voir ça aujourd'hui. Parce que dans le point de vue positiviste de la science telle qu'elle existe aujourd'hui, je ne dis pas la sagesse, hein, la science, j'accepte que ce qui est constatable. Donc je n'accepte que le corps. Scientifiquement, je n'accepte plus l'âme. Le monde est comme ça. Hein. Je vis dans un monde qui refuse l'âme et qui adore le corps. Quand je refuse l'âme, j'adore le corps. Le corps n'est plus simplement un instrument dont je me sers, indispensable, mais il devient ce qui est tout pour moi. Et je fais tout pour que mon corps garde cette place prédominante et qu'il soit pour moi fin. C'est pour ça que c'est très intéressant de voir comment le corps doit être intégré dans la personne. Il est essentiel et second. Je ne dis pas accidentel, parce qu'il est essentiel. Bon, s'il est essentiel, il n'est pas accidentel. Il est essentiel, mais second. Toujours second. Si je refuse l'existence de l'âme, mon corps devient premier. Et je suis en face d'un jugement qui se fait toujours par un mode scientifique. Je ne dépasse pas la science et je ne découvre pas ce qu'il y a de plus précieux en moi. Ce qu'il y a de plus précieux en moi, c'est mon âme, c'est mon intelligence, c'est ma capacité d'aimer. C'est ça qui est le plus précieux en moi. Mon corps, très bien, il me limite. Parce que je ne peux pas être dans deux endroits en même temps. Très embêtant, ça. C'est très embêtant pour le novice. Il ne peut pas être dans deux endroits en même temps. Le corps est obligé de me faire accepter une division entre l'âme et le corps. Je peux refuser cette division. Mais alors, si je refuse cette division, je ramène tout à mon corps. Et je n'ai plus l'horizon propre de la connaissance et de l'amour. Tout le point de vue spirituel échappe. Et par le fait même, je tue en moi la personne et je laisse se développer uniquement l'individu. Bon, c'est le grand problème actuel. Donc si nous ne voyons pas nettement différence entre les deux, nous risquons tous de nous laisser emporter par ce grand mouvement moderne. On est saisi par ça. Mais on ne découvre plus son âme. On ne découvre plus ce que c'est que la connaissance et ce que c'est que l'amour. En découvrant ce que c'est que la connaissance et l'amour, on a une connaissance du corps comme ce qui est substantiellement uni à mon âme, ce qui est partie essentielle de ma personne, mais qui est toujours second. C'est ça qui est très important à voir. Au point de vue théologique, c'est extrêmement curieux. Dieu s'est incarné pour avoir un langage corporel. Je suis le pain. Un ange, un esprit ne peut pas dire ça. Je suis le pain de vie. Et Dieu se sert du corps pour se donner davantage. Alors, le corps est complètement absorbé par l'amour et permet un don substantiel. Le don de l'Eucharistie est un don substantiel. Dieu se sert du corps pour exprimer, pour réaliser quelque chose que l'esprit ne peut pas faire. L'esprit humain ne peut pas faire. Parce que l'esprit humain ne peut pas s'imposer substantiellement seul. Il s'impose substantiellement en assumant le corps. Parce que il est le dernier des esprits. Il est l'esprit qui n'est pas substance. Il est esprit qui n'est pas substance. Alors, cette chose très curieuse, l'esprit est premier Et dans son exercice, il est toujours en se servant du corps, en se servant de la sensibilité. Il a en lui quelque chose qui aspire à être au-delà du corps. Et il ne peut s'affirmer qu'avec le corps. L'amour en lui-même est au-dessus du corps. Il regarde la personne. Et dans la personne, il regarde ce qu'il y a de plus profond dans la personne. Le point de vue spirituel. Et l'homme ne peut vivre d'amour qu'en se servant de son corps. Je me sers de ma sensibilité pour aimer. Et ma sensibilité, elle est dans mon corps. L'amour réclame l'exercice du corps, réclame d'assumer le corps. Mon amour qui se couperait de la sensibilité pour être plus parfait perd de son réalisme. Et par le fait même, il perd de ce qu'il y a en lui de tout à fait propre. Le bien qui m'attire, qui réalise en moi l'amour, le bien ne peut pas être abstrait. Je ne peux pas aimer ce qui est abstrait. Je n'aime que ce qui est existentiel. Ce qui est réel, c'est le propre du bien. Et par le fait même, je ne peux aimer parfaitement qu'en assumant ma sensibilité. Si je ne l'assume pas, mon amour perd sa force. Il devient intellectuel et perd de son caractère propre. C'est ça qui est très curieux et qui est propre à l'amour. Et ça fait comprendre la place du corps, la place de la sensibilité qui se traduit à travers le corps. C'est que l'amour ne peut être saisi pleinement que en assumant le corps. Pourquoi ? Pourquoi l'amour ne peut être saisi pleinement qu'en assumant le corps ? Parce que l'amour sensible diminue l'amour. L'amour en soi n'est pas sensible. Mais l'amour humain est sensible. Il n'est pas que sensible, il est spirituel, assumant le sensible. Pourquoi ? Parce que le corps est uni substantiellement à l'âme. Alors, il y a ce fait que l'amour implique nécessairement le point de vue sensible. Aimer en dehors du point de vue sensible, dans l'abstraction, ce n'est pas aimer vraiment. C'est une idéologie. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'amour. On vit d'une idéologie. On ne sait plus ce qu'est l'amour et on ne sait plus ce qu'est l'intelligence. C'est la grande tentation, c'est de vivre d'idéologie. C'est beaucoup plus difficile, évidemment, de reconnaître l'amour et d'assumer sa sensibilité. Mais, alors, comme on sait que c'est beaucoup plus difficile hein, d'assumer sa sensibilité, d'assumer l'existence de l'amour, que l'amour ne peut exister pour moi qu'en passant par la sensibilité. Une sensibilité qui ne peut pas se séparer du bien. Et c'est la dimension du corps qui fait ça. Et Jésus veut rappeler à l'homme cette dimension du corps comme essentielle en se servant de son corps pour nous éduquer. C'est l'Eucharistie qui éduque un chrétien. Je ne peux pas éduquer un chrétien comme chrétien, un catholique comme catholique, un chrétien comme chrétien, si je supprime cette dimension du corps. Et cela, précisément, parce que le corps est appelé à être un corps glorieux. Le corps glorieux, c'est un corps où l'amour sensible est victorieux et où l'amour ne peut pas se séparer du point de vue sensible. C'est le corps glorieux. L'Eucharistie est là pour nous rappeler que nous sommes faits pour vivre d'amour dans un corps glorifié. La séparation de l'âme et du corps, elle est momentanée. Elle ne doit pas durer. Cette séparation de l'âme et du corps, elle est faite pour purifier d'une façon ultime le corps. Le corps passe par la mort pour ressusciter, pour être capable de recevoir l'amour sans l'accaparer. Parce que ce qui est terrible dans la sensibilité, c'est que la sensibilité veut accaparer l'amour. Ne me touche pas. Ce que Jésus dit à Marie Madeleine. L'amour veut accaparer. Or, quand on aime vraiment, on respecte. On n'accapare pas, on est respectueux de l'autre, donc de la sensibilité de l'autre. qui fait comprendre comment le corps, Dieu s'en sert pour purifier l'amour. L'Eucharistie, don du corps du Christ, d'une façon voilée, cachée, purifie notre amour. C'est-à-dire, empêche notre amour d'être celui qui possède. Empêche notre amour de s'identifier à l'avoir, possession. Quand j'aime, vraiment, j'aime dans le respect de l'autre. Et l'autre, c'est celui qui est source de mon amour. C'est celui qui m'attire.